Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce matin. Donc, merci Florine pour cette introduction, merci pour la louange. Et je reviens un petit peu sur cette fête des moissons, hein, puisqu'elle correspond, cette fête des moissons, à la fête de la récolte qui était célébrée en Israël. Cette fête des moissons, cette fête de la récolte, eh bien, elle correspond à cette même date. C'est la date des fêtes juives 2015. En tous les cas, la fête de la récolte ou la fête des moissons, elle commençait le 28 septembre, elle terminait le 3 octobre. Comme quoi, nous étions un petit peu en adéquation, je dirais, avec les fêtes juives. Et cette fête de la moisson, elle a un autre nom. C'est le nom qu'on donne dans l'Ancien Testament. Elle s'appelle aussi la fête des tabernacles, la fête des tentes, c'est encore un autre nom, ou bien la fête des huttes. Ça vous dit quelque chose? Certainement que durant vos derniers cultes de fête des moissons, vous avez certainement entendu parler de ces fêtes qui étaient célébrées au temps d'Israël, hein, qui étaient célébrées, qui étaient des fêtes ordonnées par le Seigneur, des fêtes qui avaient été vraiment voulues par le Seigneur. Et puis il y avait cette fête, on dit que c'est la fête du Soukhot. Hein, c'est ça? Ça vous dit quelque chose? Voilà, la fête du Soukhot. Et ces trois fêtes qui étaient importantes, hein, dans le pays d'Israël, il y avait donc la Pessa, ou Pécha, qui était Pâques. Ensuite, c'était la fête de la Pentecôte, qu'on appelait Shavuot, et puis cette fête des tabernacles. Et puis dans cette fête, il y avait une convocation, je dirais, solennelle de la part de Dieu. Dieu convoquait le peuple d'Israël, et notamment, c'était bien sûr une fête de joie et une fête de reconnaissance. Et ce qui est assez important, c'est que Dieu ordonnait au peuple d'Israël d'être dans la joie. Dieu ordonnait au peuple d'Israël d'être dans la joie. Tout comme l'apôtre Paul nous ordonne aussi d'être dans la joie. Hein, il le dit dans l'épître aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie. Et il le dit aussi, dans l'épître aux Colossiens, soyez reconnaissants. Donc nous, chrétiens, nous sommes appelés à être non seulement des lumières qui brillent autour de nous, mais nous sommes appelés aussi à être des hommes, des femmes, des enfants du Seigneur qui sommes reconnaissants et qui sommes dans la joie. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours quelque chose de simple à vivre, mais en tous les cas, c'est, un impératif que le Seigneur nous donne. Puis il y avait aussi d'autres fêtes. Il y avait notamment sept fêtes qui étaient célébrées, hein, que Moïse a données sur la montagne. Sept fêtes, et une des fêtes, c'était celle du repos, celle du sabbat. Donc elle était considérée comme une fête. C'était aussi une fête cultuelle puisqu'on apportait à Dieu un culte. Et d'ailleurs, Jésus lui-même était un homme de son époque qui a observé bien entendu tous les rites juifs et surtout les cérémonies juives. Et Jésus avait quand même quelques problèmes avec la religion de son époque, puisque les chefs religieux avaient vraiment donné beaucoup de règles durant le sabbat. Et il y avait tellement de règles que finalement, c'était plus un jour de repos, c'était plutôt un jour de contrainte. C'était plutôt un jour où, à mon avis, qui devait être pas si simple que ça à vivre. Et aujourd'hui encore, je sais que les Juifs, lors du sabbat, ont des règles très strictes. Il me semble que pour allumer la lumière, on n'allume pas la lumière comme ça, ça doit être quelque chose qu'il faut prévoir d'avance. Enfin, j'avais entendu quelque chose comme ça. Et voici ce que Jésus dit. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? C'est les pharisiens qui le disent. Dire quelques pharisiens, alors que les disciples de Jésus arrachaient les épis et les mangeaient le jour du sabbat. Donc Jésus était celui qui était libre, était celui qui vivait vraiment le sabbat selon la loi qui avait été donnée par Moïse. Et puis les Juifs étaient aussi de ceux qui allaient critiquer Jésus parce qu'il, dans Luc au chapitre 13, il est dit « Il y a 6 jours pour travailler, allez donc vous faire guérir ces jours-là ». Le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait guéri le jour du sabbat une femme courbée depuis 18 ans. Vous voyez comme quoi, à l'époque, les règles étaient vraiment très très strictes et on ne faisait pas n'importe quoi et tout était vraiment très réglementé. Et Jésus va un peu casser toute cette tradition. Puisque le sabbat, au départ, n'était pas prévu pour contraindre ou pour mettre un poids sur les épaules, sur le dos de ceux qui devaient l'observer. Alors c'est vrai que les scribes et les pharisiens connaissaient parfaitement le sabbat et qu'ils l'appliquaient bien sûr au-delà même de ce que Dieu avait prescrit. Et les chefs religieux observaient même Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il s'opposait farouchement à celui qui était le maître du sabbat. Il s'opposait farouchement à celui qui voulait faire du bien et à celui qui voulait guérir pendant le sabbat. Car ce soi-disant maître du sabbat devait observer la loi tout comme les pharisiens l'observer. Voilà. Voilà en ce qui concerne le sabbat à l'époque de Jésus. Et nous, chrétiens, nous avons repris un peu cette tradition juive, puisque nous aussi, nous observons, non pas le sabbat qui est le samedi, mais nous observons le dimanche, pendant lequel nous nous reposons. C'est un jour où, on casse le rythme, un jour où on ne fait rien, un jour où on va peut-être vaquer à autre chose, et un jour où on va pouvoir aussi, bien sûr, rendre un culte à notre Seigneur. Et oui, le sabbat est un jour qui apparaît dès le début de la création. Nous lisons dans Genèse au chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, il vit que tout ce qu'il avait fait était bon, ce fut le sixième jour. » Et le septième jour, bien sûr, tout ce qu'avait fait Dieu était achevé et il se reposa. Dieu bénit le septième jour et Dieu le sanctifia. Alors, la semaine dernière, vous avez parlé de cette fête des moissons. Aujourd'hui, on parle de cette fête du sabbat, de cette fête pendant laquelle nous sommes appelés à nous reposer. Je vous ferai observer une chose, c'est que Dieu a créé pendant 6 jours, et le septième jour, il s'est reposé. Ce qui veut dire que le premier jour de l'homme et de la femme n'est pas un jour de travail, comme on pourrait nous le penser, puisque nous, on se repose le dimanche, et après, recommence le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis hop, c'est de nouveau le repos. Mais là, le premier jour pour Adam et Ève, c'est un jour de repos. Puisqu'ils ont été créés le sixième jour et que le septième jour, ils sont déjà dans le repos. Ce n'est pas tout à fait, je dirais, la conception de nos sociétés modernes, hein, ou de la société même avant. Je pense que pour pouvoir se reposer, il faut accumuler des jours de repos.
Et moi, de travail.
Des jours de travail, oui, c'est plus juste. Pour pouvoir vraiment se reposer. Sans même avoir travaillé pour cela, l'humanité commence son existence dans le repos. Pourquoi ? Parce que Dieu avait travaillé 6 jours pour préparer la venue de l'homme. Et ce que désirait Dieu à travers ce repos, c'est que l'humanité entière, l'humanité qui n'a pas encore connu à ce moment-là la chute, jouisse de toutes les bénédictions que Dieu avait en réserve pour elle. Le projet de Dieu était donc, non pas forcément, comme on le pense, un projet de travail, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas forcément dans le projet de Dieu un projet d'activité, mais pas le travail comme on le connaît maintenant. Le projet de Dieu pour l'humanité était donc un projet de repos. Dieu voulait associer l'homme à son repos. Et je crois que c'est un projet dans lequel Dieu vraiment avait mis toute son action, hein, son énergie, afin que l'homme entre dans ce repos. Mais, bien sûr, quelques lignes après, hein, Genèse, la Bible, nous apprend que, bien par la désobéissance de l'homme, par la désobéissance de la femme, eh bien, ils sont sortis rapidement de ce repos de Dieu. Et l'homme et la femme, ainsi que toute l'humanité, étaient livrés à la malédiction. Une terre qu'il fallait travailler péniblement, une terre qu'il fallait travailler à la sueur de son front, une terre qui ne produisait que des épines et des ronces. Et d'ailleurs, ceux qui ont un jardin, vous le savez, si vous laissez pendant quelques jours votre jardin sans travailler ou sans aller voir ce qui se passe, eh bien les mauvaises herbes vont venir très rapidement et vont envahir tous nos légumes. Et puis ensuite, le temps passe, et après plusieurs générations, Lémec eut un fils qu'il appela Noé. Et Noé signifie dans les langues anciennes « repos ». Dans Genèse, au chapitre 5, verset 29, nous lisons « Celui-ci, en parlant de Noé, nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Donc, quelque part, les hommes vivaient dans l'espérance. On a parlé d'espérance, hein. C'est pas la même espérance, mais dans cette espérance d'un jour nouveau, dans cette espérance, d'un nouveau repos, un repos qu'ils avaient perdu depuis des générations, un repos qu'ils avaient perdu avec l'entrée du péché dans le monde. Et Dieu allait donc fixer un jour nouveau par l'intermédiaire d'Israël, et il allait lui donner un repos particulier. Parce que Israël devait, tout comme Adam, demeurer dans ce repos. Le peuple de Dieu, hein, vous le savez, par les commandements qui ont été donnés, avait le devoir de garder le sabbat que Dieu lui avait donné. Il faut noter cependant que le sabbat, le repos de Dieu que Dieu a donné à Israël, n'était pas le même que celui que Dieu avait donné à Adam. Puisque le repos que Dieu avait donné à Adam était le premier jour. Tandis que le repos que Dieu donne à Israël était le dernier jour. Il était le dernier jour. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage pendant 6 jours, et puis le 7e jour, tu te reposeras de tes jours de travail. Donc, cela signifie que le peuple d'Israël ne pouvait se reposer qu'après avoir travaillé eux-mêmes 6 jours. Ce repos était donc un repos imparfait par rapport à celui que Adam avait donné. Pour pouvoir entrer dans ce repos que Dieu avait préparé, il fallait qu'Israël observe strictement la loi, puisque la loi avait été donnée. Et ainsi, frères et sœurs, pour la fête des tabernacles, et là je reviens à cette fête des moissons, Dieu a institué une chose remarquable. Ce Dieu d'éternité, ce Dieu qui a créé les extrémités de la terre, ce Dieu qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point, qui ne se lasse point non plus de bénir, reste fidèle à son projet. Et son projet, c'était vraiment, il est que nous puissions entrer nous-mêmes dans ce repos de Dieu. Donc Dieu a donc fixé un nouveau jour, un dernier jour, et il ordonna un 8e jour de repos. C'est ainsi que nous lisons dans Lévitique, au chapitre 23, à partir du verset 36. Ou même 33, on peut le lire à partir de là, hein, la fête des cabanes. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Voilà. Donc, Dieu avait prévu des fêtes pour le peuple d'Israël, des fêtes qui devaient le célébrer, des fêtes qui devaient, dans lesquelles le peuple d'Israël devait se rappeler de la sortie d'Égypte, se rappeler, de la Pâque, hein, bien sûr, de se rappeler également de son séjour pendant le désert, se rappeler aussi que Dieu leur avait fait don de la loi et que Dieu avait contracté avec le peuple d'Israël une alliance. Et ces fêtes duraient généralement 7 jours. Et là, Dieu va faire quelque chose de remarquable avec cette fête, c'est qu'il va instituer un 8e jour. Donc, ce 8e jour annonce, est une annonce prophétique d'un repos extraordinaire que Dieu donnera à sa création, mais aussi à l'humanité tout entière. C'est vrai que Dieu ne nous a pas créés pour l'agitation, mais Dieu nous a créés avant tout pour entrer dans un repos. Le dernier jour, le 8e jour, était prophétique puisqu'il annonçait ce nouveau repos, puisqu'il annonçait ce grand jour. Et ce repos allait s'accomplir avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui va lui-même déclarer, lors de la fête des cabanes ou bien des tabernacles, comme vous voulez, qui va le déclarer dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, à partir du verset 37, le dernier jour de la fête, donc ce jour des cabanes, le huitième jour, justement, c'est ce dernier jour-là, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Voilà. Nous lisons aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, ce verset, cette phrase qu'il a dit, qu'on connaît bien. « Ce dernier jour nous est donné en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, pour entrer dans le repos de Jésus, nous n'avons pas besoin de travailler comme le peuple juif qui devait travailler pendant 6 jours, et puis qui, après ces 6 jours, entrait dans le repos de Dieu, tout comme la loi l'indiquait. Pour entrer dans ce repos de Dieu, on n'a pas besoin de prouver non plus quoi que ce soit à Dieu. On n'a pas besoin de lui démontrer notre piété. On n'a pas besoin non plus d'essayer de faire du bien autour de nous pour essayer de gagner justement cette faveur de Dieu, pour essayer de gagner ce repos de Dieu. Alors, c'est vrai que le travail, faire du bien entendu, sont des choses qui sont honorables. Mais pour entrer dans le repos du Seigneur, une seule chose est nécessaire. Ne pas endurcir mon cœur et croire en Jésus-Christ. Ça, c'est la chose nécessaire pour entrer dans ce repos qui devient pas seulement un repos d'un jour, un repos où on coupe avec la routine, mais qui devient un repos permanent. Parce que j'appartiens au Seigneur, parce que je demeure dans le Seigneur. Ce repos nous est offert parce que Christ est mort sur la croix, parce qu'il est ressuscité et parce qu'il nous fait entrer dans cette présence, parce qu'il nous fait entrer dans ce repos. Ce repos nous montre aussi que l'Esprit Saint nous est donné. Il prend ce qui est en lui, il prend ce qui est en lui et le met en nous. C'est l'Esprit Saint. Et ainsi, nous portons ce repos dans l'éternité. Le huitième jour est le jour de l'Esprit. C'est Jésus qui le dit dans Jean. Que celui qui a soif vienne à moi, qu'il boive. Et avec Jésus, tout est accompli. Et nous pouvons ainsi, dans notre travail, dans nos activités, dans la vie de tous les jours, mener une vie de repos. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde s'agite. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, le monde essaye de trouver un repos relatif, bien sûr, un repos qui est conditionnel aussi, Mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes entrés dans ce repos dans lequel l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce repos dans lequel nous avons une espérance. Ce repos qui nous assure que Dieu nous aime, qui nous assure aussi l'éternité avec lui. Dans Hébreux, au chapitre 4, nous pouvons lire ces quelques passages concernant le repos, justement. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Dieu nous invite à entrer dans ce repos. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu quand il dit « C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. » Le peuple d'Israël n'a pas pu entrer dans le repos de Dieu. Le peuple d'Israël, quelque part, a échoué. C'est vrai qu'il est entré dans le pays promis, mais après être entré dans ce pays, eh bien, le peuple a connu la désobéissance. Et ce peuple est sorti de ce repos, en tous les cas. C'est ainsi, je continue ma lecture, c'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée, depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Et dans notre texte, il dit « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y ont pas entré parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle « aujourd'hui ». Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David « aujourd'hui », si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu, le septième jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Voilà jusqu'ici ma lecture. Et je dirais simplement que nous sommes nous aussi entrés dans ce repos à partir du moment où nous avons cru. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, mais nous sommes appelés aussi, nous sommes invités à nous empresser de rester, de rentrer dans ce repos, mais aussi d'y rester. Parce qu'il est possible qu'on puisse sortir de ce repos lorsque nous désobéissons au commandement de Dieu, lorsque nous désobéissons à sa parole. Et ce repos que Dieu nous donne nous a été acquis chèrement, et voilà, c'est par la croix, bien sûr, et le Seigneur, vraiment, nous donne cette bénédiction de pouvoir demeurer en lui, de pouvoir avoir accès à cette présence et accès à son repos. Voilà, c'est quelques pensées que j'avais à cœur de vous partager ce matin, et je vais prier tout simplement.